8h21.
Chapitre 107. Le charpentier.
Assieds-toi, lecteur, sur un siège de sultan parmi les lunes de Saturne et considère l'homme, l'homme seul, dans sa haute abstraction. Il te semble voir une merveille, une noblesse, une souffrance. Puis, du même point d'observation, regarde l'humanité comme une masse et tu verras, pour l'essentiel, une foule de doubles inutiles, copie à la fois contemporaine et héréditaire. Mais si humble qu'il fût, et si loin de constituer un exemple de la haute abstraction humaine, le charpentier du Pécode n'était pourtant pas une simple copie. C'est la raison pour laquelle il s'avance à présent sur scène, en personne. Comme tous les charpentiers de marine, et plus particulièrement ceux des navires baleiniers, il avait acquis, par une pratique spontanée, l'expérience de nombreux métiers et activités voisins du sien. La science du charpentier étant le tronc ancien qui a produit, par ramification, ces nombreux artisanats qui ont plus ou moins affaire avec le bois comme matériau auxiliaire. Mais, en sus de la remarque générale qu'on vient de lui appliquer, le charpentier du Pécode avait un talent particulier pour régler les mille et un problèmes mécaniques indéfinissables qui surgissent continuellement et inopinément à bord d'un grand navire, durant un voyage de 3 ou 4 ans, très loin des rivages de la civilisation. Sans parler de sa promptitude à exécuter ses tâches ordinaires, la réparation des pirogues crevées et des espars fendus, la réfection des pelles d'aviron défectueuses, la fixation de margouillets dans le pont ou le remplacement de gournables dans les bordages, et autres besognes variées relevant directement de son métier. Il savait mettre en œuvre, sans hésiter un instant, toutes sortes d'aptitudes contraires qui allaient à l'utilité de la satisfaction de sa fantaisie. La grande scène sur laquelle il jouait cette multitude de rôles divers était son établi. Une longue table, lourde et grossière, pourvue de plusieurs étaux de fer et de bois, de tailles variées. En tout temps, hormis les jours où des baleines étaient amarrées à notre flanc, cet établi était solidement assujetti par le travers contre la partie arrière du fourneau. Un cabillaud est-il trop épais pour être inséré sans peine dans un trou? Le charpentier le serre dans l'un de ses étaux toujours prêt au service et l'amenuise aussitôt à la lime. Un oiseau au plumage étrange venu de la terre est-il fait prisonnier sur le pont où il s'est égaré? Avec des fanons bien polis de baleines franches et des traverses d'ivoire de cachalot, le charpentier lui construit une cage en forme de pagode. Un canotier se foule-t-il le poignet? Le charpentier lui confectionne une lotion apaisante. Stubb désire-t-il voir peintes des étoiles vermillons sur les pelles de tous ses avirons? Le charpentier fixe chacun des avirons dans son gros étau de bois et, en écho, fournit la constellation souhaitée. S'il prend à un matelot la lubie de porter des boucles d'oreilles en os de requin, le charpentier lui perce les lobes. Un autre a une rage de dents, le charpentier sort ses pinces et, frappant de la main sur l'établi, le prie de s'y installer. Mais le pauvre diable, affolé, grimace de douleur à l'avance. Le charpentier alors, desserrant les mâchoires de son étau, lui fait signe d'y introduire la sienne, s'il veut qu'on lui extrait sa dent. Ainsi ce charpentier était-il prêt à tout, également indifférent à tout, et sans respect de rien. Les dents n'étaient pour lui que des morceaux d'ivoire, les têtes de simples poulies de guinderès, et les hommes eux-mêmes de vulgaires cabestans. Tant de talents divers s'exerçant dans un si large champ, tant d'agilité et d'adresse eussent pu laisser croire à une intelligence d'une vivacité peu commune. Ce n'était pourtant pas précisément le cas. Cet homme ne se distinguait pas rien tant que par une sorte de placidité impersonnelle. Oui, impersonnelle, dis-je, car cette qualité se fondait si bien dans l'infini des choses alentour qu'elle semblait ne faire qu'un avec l'impassibilité générale du monde visible, qui, tout animé qu'il est d'une incessante activité sous d'innombrables formes, demeure éternellement paisible et vous ignore, alors même que vous creusez les fondations des cathédrales. Cependant, il arrivait que cette placidité vaguement inquiétante, accompagnée d'une cruauté aux mille ramifications, se teinta bizarrement d'un humour antédiluvien, claudiquant au souffle asthmatique, dans lequel fulgurait parfois un trait d'esprit de vieillard chenu, semblable à ceux qui durent servir pour passer le temps du quart de nuit entre vieilles barbes sur le gaillard d'avant de l'arche de Noé. Fallait-il croire que ce vénérable charpentier, qui avait roulé sa bosse sa vie durant, non seulement n'avait point amassé mousse, mais encore avait, par son roulement, usé de toutes les petites attaches extérieures dont il avait pu être doté à l'origine. C'était une abstraction nue, un nombre infractionnal, un être aussi peu compromis qu'un nouveau-né, vivant dans l'idée, vivant sans idée préconçue sur ce monde ou sur l'autre. On eût pu aller jusqu'à dire que cette singulière absence d'implication dans quoi que ce fût comportait une manière d'inintelligence, car dans l'accomplissement de ses nombreuses besognes, il ne paraissait pas tant œuvré par la raison ou l'instinct, ou par la seule science apprise, ou par quelques combinaisons plus ou moins équilibrées de ces éléments, que par un processus littéral, spontané, sourd-muet en quelque sorte. C'était un pur manipulateur. Son cerveau, si jamais il en eut un, avait dû très tôt s'écouler jusque dans les muscles de ses doigts. Il ressemblait à l'un de ces objets que l'on fabrique à Sheffield, dépourvu de raison, mais fort utile au demeurant. Un multum in parvo, possédant l'apparence, un peu boursouflée il est vrai, d'un couteau de poche ordinaire qui comporte bien sûr des lames de grandeur différentes, mais aussi des tournevis, des tire-bouchons, des bruxelles, des pinces, des poinçons, des plumes, des règles, des limes à ongles et des fraises. Ainsi, lorsque ses supérieurs souhaitaient utiliser le charpentier comme tournevis, il leur suffisait de l'ouvrir à l'endroit correspondant et la vis pouvait être serrée. Si l'on voulait des bruxelles, on le saisissait par les jambes et le tour était joué. Pourtant, comme on l'a déjà suggéré, ce charpentier, ou plutôt ce couteau à usage multiple, n'était pas qu'un simple automate mu par un mécanisme. S'il ne possédait pas une âme comme tout un chacun, il avait cependant en lui une chose subtile qui, à son étrange façon, en tenait lieu. Qu'était-ce au juste ? Esprit de mercure ou goutte d'ammoniac ? Impossible à dire. Mais la chose était là. Elle était en lui depuis maintenant 60 ans ou plus. Et c'était cette chose, ce principe vital inexplicable et rusé, c'était cela qui le faisait soliloquer la plupart du temps, mais seulement comme une roue dénuée d'intelligence, dont le bourdonnement est aussi un soliloque, ou plutôt, disons que son corps était une guérite et que le soliloqueur en faction, dedans, ne cessait de parler pour se tenir éveillé.